Bonsoir à toutes et à tous, le débafteur européen avec tous les passionnés de Génération Soccer, c'est avec Roméo, bonsoir Roméo.
Bonsoir à tous.
Avec Adrien avec nous aussi aux commandes.
Bonsoir à tous.
Aurélien sera aussi avec nous.
Bonsoir tout le monde.
Notre ami Johan participera également à l'émission.
Bonsoir.
Et bien entendu tout ça c'est sous les mains habiles et dociles de notre grand commandant à toutes et à tous, c'est Dan, et un ami parisien viendra tout à l'heure nous parler du choc de la soirée. Mais avant cela, évidemment, la Ligue 1, il y a eu 3 matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. Le premier d'entre eux, Nice-Le Mans. Roméo, tu as vu ce match, qu'en as-tu pensé?
Nice-Le Mans, donc Nice, on va en parler avec Johan qui a vu le match. Donc Nice remporte les 3 points face à Le Mans, ce qui leur permet de s'échapper un peu plus de cette zone des relégables, qui leur fait tant peur. Donc Le Mans, qui a été réduit à 10 après l'expulsion de Gélère, repart vaincu de ce match, ce Auray. Malgré un match assez plein d'engagement quand même, les Sartois, ils sont montrés un peu, mais c'était vain. Et ça n'a pas suffi, donc Le Mans qui se place maintenant à la 19e place du classement Ligue 1, ça commence à devenir très très dur. Donc, tu confirmes, Johan?
Oui, je confirme, avec un début de match côté du Mans très très médiocre, avec notamment les joueurs qui commençaient déjà à s'énerver au bout de 10 minutes, et au bout de 15 minutes, Jeder qui met un coup de coude sur Bakayoko, qui lui vaut le carton rouge. Donc après, Le Mans réduit à 10, c'est là bizarrement qu'ils ont commencé à jouer le mieux. Mais on peut voir sur le but, après une superbe sortie du gardien Manceau, que un joueur qui a encore 2 semaines, c'est inimaginable pour lui, il joue encore en CFA2. Et là, il marque son premier but en Ligue 1 avec Nice. Et il offre la victoire à Nice grâce à ce but, mais offert au niveau de la défense mancelle, parce que elle était absente sur ce corner-là. Et après, on a des attaquants qui ont essayé de... Comment dire? Ils ont essayé de trouver le chemin du but, mais on voit un Thorsten Elstad qui rate l'immanquable à 2 minutes de la fin, et avec une attaque comme ça, on ne peut pas y arriver.
Oui, c'est cette tête, même pas cadrée, il me semble, en plus.
Non, il rate complètement sa tête.
Oui, à un mètre des buts, je ne sais pas si vous avez vu l'action, mais ça vaut le détour. Encore plus raté que Brandao, il a voulu copier Brandao hier soir, qui a lui aussi fait un gros raté. Donc voilà, Le Mans qui paie un peu son pillage hein, chaque année. Et là, c'est Pelé et Gervinho qui sont partis cette année. Et là, pour l'instant, les remplaçants tardent à remplacer comme ils devraient le faire ces départs.
Le souci, un président qui, quand il est interviewé, lui dit aux journalistes qu'il préfère avoir de l'argent en caisse plutôt que le dépenser dans des transferts inutiles. Mais on se rend compte quand même qu'à ce stade de la saison, Le Mans est 19e et les transferts, il aurait bien fallu qu'ils arrivent au mercato.
C'est clair. Là, la situation devient très critique.
Ouais, c'est sûr. Et surtout quand on visionne le match et qu'à la fin, au niveau des interviews, on entend l'entraîneur qui dit que de toute façon, si le président décide que je dois sortir, alors je sortirai. Ça montre un peu l'ambition qu'il a pour le club.
Paulo Duarte.
Voilà.
Cette fois-ci, j'ai pas vu sa veste.
Il avait un pull là.
Ah, il avait magnifique. Un pull.
Il avait sorti la cravate.
Ah bah voilà, dommage. Ouais. Donc voilà.
Vous avez dit au classement, Le Mans est avant-dernier, 8 points. Ils sont à 1 point seulement du premier non-relégable qui est Boulogne-sur-Mer. Mais qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faire basculer la bascule du côté positif pour les Manceaux? Est-ce qu'il y a des raisons d'y croire d'abord?
Oui, il y a des raisons d'y croire quand même, parce que l'effectif, je pense que normalement, est long pour tenir la route en Ligue 1. Mais il manquerait une victoire, parce que là, ça fait quand même 3 journées de suite où on marque pas... Et on gagne pas non plus. Donc le dernier bon résultat, on va dire, qu'on a fait, c'est contre Boulogne. C'est un match nul à domicile avec un but à la dernière minute. Donc là, il faudrait une victoire pour relancer la mécanique.
Ouais, aussi effectivement, et une défense qui est pas totalement la meilleure, mais le ratio n'est pas dramatique quand on compare à Grenoble ou à Lens. Bon, ils encaissent moins de goals. Ils en marquent plus, mais c'est vrai que pour tenir, pour essayer d'accrocher cette 17e place, ils vont devoir se battre jusqu'au bout les mentions. En tout cas, on espère que qu'ils se qualifient la semaine prochaine. Vous jouez où?
La semaine prochaine, on reçoit Auxerre.
Ouais, donc ça risque encore d'être un match compliqué. Il faudra remettre un peu tout ça.
Mais bon, après, là, contre Nice, on n'a pas été ridicule hein, comparé à Lyon de l'année dernière, la semaine dernière. On n'a pris qu'un but.
Ouais. Vous avez quelque chose encore à dire par rapport à ce match, peut-être du côté niçois? Je sais pas, pas de réaction.
Pas de réaction par rapport à Nice qui s'offre un petit bol d'air, une petite réaction et qui sort, il me semble, si je me trompe pas, des trois derniers du classement des relégats, mais ce qui se positionne 14e.
Son 14e. 5 points de plus, que Lens, qui est premier relégable. Alors, il y a eu un autre match au cours de la soirée, c'est le match qui opposait Rennes à Valenciennes. Valenciennes qui a écrasé Rennes 0-3. Un résultat forgé en seconde mi-temps qui ne se discute pas trop, Roméo, hein, parce que tu partages quand même l'impression générale.
Discute pas trop, c'est un match que Rennes a complètement dominé en première période, mais le problème c'est que Rennes a été trop brouillon en attaque avec seulement 2 tirs cadrés pour 14 tentés, contrairement à Valenciennes qui a marqué 3 fois après 4 tirs cadrés. À noter que sur le premier but, c'est la défense rennaise mystérieusement apathique. Pareil sur le deuxième, sur le premier but, c'est Bobo Baldé, il me semble, qui marque. Sur le deuxième, c'est assez étrange parce que Sanchez, le sud-américain de Valenciennes, se blesse. Et dans la continuité de l'action, Ben Khalfallah qui voit des espaces, il continue alors qu'on lui demande de faire sortir le ballon. Finalement, il frappe aux 20 mètres et il marque, poteau rentrant du gauche. Et sur le troisième, encore une petite histoire, le but n'est pas rentré. Tout simplement, il n'y avait pas de but. Une frappe qui a touché l'arête, mais qui a rebondi sur la ligne. Monsieur Vidéo, pardon. C'était pas Vidéo, c'était... Si, c'était Monsieur Pascal Vidéo, donc il a accordé le but à mauvais titre, voilà. Et donc, Rennes qui s'enfonce un peu, là, qui se retrouve maintenant en 11e position. Paris, il leur a passé devant, on va parler de Paris qui a gagné à Sochaux, là, et Rennes qui se retrouve 11e, un point devant Toulouse, donc voilà, un match assez rageant pour Rennes qui a montré une défense curieusement empathique, alors que c'était la meilleure défense de Ligue 1 avant de recevoir la meilleure attaque. Finalement, c'est l'attaque qui a pris le dessus, et ce Rennes qui avait pris 6 buts avant ce match, on a pris 3 en un seul. Voilà, c'est une humiliation, comme le qualifie Antonetti. Il a déclaré que c'était une très grande désillusion. On a eu quelques situations, surtout en première mi-temps, voilà, comme il le dit. Il y a eu un but d'Hanson refusé sur coup franc. Voilà, donc il estime que Valenciennes a eu 100% de réussite et Rennes 0%. C'est globalement, même si on sent un peu l'amertume dans ses propos, il résume assez bien cette rencontre. Voilà.
Ouais, le sympathique club nordiste qui s'exporte bien parce qu'ils ont les meilleures statistiques à l'extérieur, ils devraient plus jouer dans leur petit stade sympathique nordiste parce que sur 6 matchs, ils ont 12 points, c'est tout simplement le meilleur taux de points de la Ligue 1 et la meilleure et attaque avec 13 buts.
La meilleure attaque, exactement, faut en parler. C'est la meilleure attaque de Ligue 1 à l'heure actuelle. Pourtant, quand on voit les joueurs offensifs présents à Valenciennes, on n'y croirait pas. C'est par exemple le trio offensif de ce soir, c'était Gaël Danic, Grégory Pujol et Faïd Ben Khalfallah. Donc, on s'imagine mal voir cette équipe être la meilleure attaque de Ligue 1. Pourtant, c'est le cas. C'est une équipe qui propose un jeu offensif plaisant à voir jouer. Et ça fait ça. Samassa n'a pas joué pourtant. C'est dommage, voilà. Donc Valenciennes qui maintenant passe devant l'OM avec un match en plus, bien sûr. Valenciennes en 6e position qui est parti pour faire un beau numéro. Hein. Beau numéro.
Ouais, mais est-ce que la question est de savoir est-ce qu'il sera éphémère. Et puis tu parlais de jeu efficacité. J'ai envie de dire 4 tirs, 3 buts, c'est un jeu à la milanaise.
4 tirs cadrés.
4 tirs cadrés, 3 buts, c'est un jeu à la milanaise, quoi. Mais il y a peut-être un joueur qui, à Valenciennes, résume bien cette efficacité, c'est Grégory Pujol. Greg Pujol, c'est vraiment pas le gars qui a une technique absolument sensationnelle, c'est un gars qui se débrouille bien mal au pied, mais c'est vraiment un gars très concret, très concret, et vraiment quand il est devant le goal, il passe pas, quand il est devant le but, parce que c'est mes belgicismes qui ressortent, quand il est devant le but et non le goal, il tire rarement à côté, il a vraiment cette concrétisation là, et peut-être qu'il résume un peu cette équipe de Valenciennes, qui est très surprenant. Leur adversaire Rennais, par contre, il stagne un peu là maintenant, dans le ventre mou, ils sont 11e.
On a compris pourquoi tu chouchoutais un peu, c'est un ancien joueur d'Anderlecht, c'est ça?
Eh oui, c'est pour ça que je le connais bien. Voilà.
Donc voilà,
il y a tes indices dans l'équipe, c'est pas très sympathique ça, Aurélien.
Voilà, alors donc Grégory Pujol qui marque, qui a marqué ce soir d'ailleurs, c'est sur sa frappe, il me semble, qu'il tape sur la barre et que ça rentre pas, mais c'est je sais pas, il me semble que c'est c'est le but là qui est retombé sur la ligne après avoir touché l'arrêt. Bah c'est Grégory Pujol qui l'a marqué, même s'il y était. Voilà. Pour ce match Rennes Valenciennes et cette défaite à domicile des Rennais qui descendent à la 11e place du classement.
Il y a eu 3 matchs aujourd'hui, le match de la soirée, le match entre guillemets phare, même s'il n'a rien de faramineux, il opposait Sochaux au Paris Saint-Germain. On va pas vous dire à former du suspense, enfin, vous êtes au courant à mon avis du résultat, sachez qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission, notre ami Ralette reviendra nous rejoindre, l'occasion maintenant de parler un petit peu avec d'abord Adrien, il a peut-être quelque chose à dire par rapport à ce qui vient d'être dit, Adrien.
Non, c'était juste par rapport au match du PSG. En fait, je pensais qu'on allait en parler maintenant, donc ça m'est égal.
Vas-y.
C'était pour dire que comme vous avez dû le savoir, donc victoire 4-1 du Paris Saint-Germain avec un but de Clément, de Chantôme, d'Erling et de Lundula. Bon, la prestation du PSG n'a pas été vraiment exceptionnelle. La physionomie du match ressemble un peu à celle du début de saison. Le PSG plante 3 ou 4 buts sans vraiment convaincre. Comme par hasard, la victoire arrive au moment où mes buts Erding revient dans le groupe parisien. Donc peut-être une petite coïncidence, mais dès qu'Erding est dans le groupe ou est titulaire, le Paris Saint-Germain gagne. Donc bon, on va dire qu'il y a une petite Erding dépendance qui commence à s'installer. Comment s'appelle-t-il? Antoine Camboré avait changé de dispositif. Il avait mis un 4-2-3-1 en mettant Stéphane Sessegnon en numéro 10. Et à ce poste-là, Sessegnon était plus que bon par rapport à ses anciennes prestations face à Nancy ou face à Toulouse où Sessegnon était vraiment très très mauvais. Alors que là, il en a vraiment retrouvé le Sessegnon de l'année dernière où il avait beaucoup plus de liberté derrière Hardy. Après, on a eu après les grosses satisfactions aussi de Christophe Jallet. Déjà au début de saison, il avait été très très bon, mais là on peut vraiment dire qu'il a été excellent. Il pourrait vraiment être titulaire dans cette saison parce que il fait de très très bons matchs, et donc il pourrait prendre la place d'un mec comme Julie. Franchement, il a fait 3 passes décisives il me semble ce soir, donc ce qui est quand même pas mal sur les 4
oui.
buts. Voilà,
3 passes décisives sur 4 buts. On me signale aussi le gros match de Mamadou Sakho.
Ouais, il est énorme comme d'habitude. Là, cette fois-ci, il a pas eu de saut de concentration comme il peut en avoir certaines fois pendant les matchs. Il s'est vraiment bien concentré sur tout le match pendant 90 minutes. Il a vraiment été parfait. Bon, Traoré à côté de lui est vraiment.
Il s'est bien remis, hein.
Ouais.
Il s'est bien remis de la grippe, hein.
Ouais. Comme Clément d'ailleurs.
Connard. Ah oui, ouais, on a vu ça, hein.
Ça c'est vraiment excellent. Par contre, Traoré à ses côtés, vraiment toujours aussi nul, quoi. Avec Armand Traoré, ça a vraiment été les deux joueurs les plus mauvais de Paris ce soir, je crois. Puis bon, sinon, dans l'ensemble, les prestations ont été plutôt satisfaisantes. Bon, le penalty pour Paris n'est pas valable normalement à cause d'une simulation de Lundula. Le pénalty avait été tiré par Erding. Bon, je comprends toujours pas pourquoi Erding a voulu tirer, surtout quand c'était Richard, qu'il connaît depuis 9 ans. Donc bon, c'était une petite, c'était osé. Bon, heureusement que Clément suivait derrière, mais bon. Je pense que le penalty nous a bien aidé, en fait.
Oui. Oui, comme tu as dit, simulation de Lindula sort le penalty. Ouais. Armand, on me signale en réaction que Armand a pas été bon. Je cite. D'ailleurs, c'est Flo qui nous le dit. Armand, il nous a fait un spectacle de cirque ce soir. J'ai cru voir le fantôme de Francis Lasser mixé avec Stéphane Pichot.
Mais en même temps, Flo, il peut pas s'acquitter à Armand, qui est pas objectif.
Ah, voilà.
Donc, non, mais c'est vrai qu'il a pas été bon. Enfin, enfin, je sais pas, il est vraiment de plus en plus mauvais, quoi. Déjà, l'année dernière, c'était moyen. Mais là, il est vraiment mauvais, déjà. Enfin, je trouve que.
Le correspondant.
On le retrouve pas du tout par rapport à ses premières années. Ses premières années au PSG où il était vraiment excellent, bah il avait déjà une bonne complicité avec Roten, mais là il a pas de complicité avec avec Lundula, parce que là c'était Lundula qui jouait côté gauche. Mais franchement, il a pas été bon, il fait des cagades, quoi. Mais autant mettre un jeune comme Makonda qui peut avoir sa place au sein d'un effectif parisien, autant le mettre, hein, je pense. Enfin, voilà.
Oui, comme tu. Il me semble que Aurélien avait quelque chose à dire sur Jalais, donc.
Oui, tout à fait. Bah, je voulais dire pourquoi ce soir tu me dis que Jalais était bon, mais je comprends toujours pas pourquoi Comboiré s'obstine à le faire jouer milieu droit. Ça, ce soir, il joue bien milieu droit.
Oui.
Pourquoi il s'obstine à le faire jouer? Je veux dire, quand il l'a recruté, il a regardé des vidéos de lui à New York quand il jouait milieu droit, ou il s'est pas renseigné que c'est un arrière droit et que pendant une année Christian Gourcuff l'a fait jouer milieu droit et qui. À part un match sur 6, il était bon milieu droit et après il était décevant, et c'est que quand il a reculé qu'il était bon, ou c'est juste qu'il est con.
Bah franchement, ouais. Non mais il y a pas de problème. Non mais ouais. Depuis que Camboret il a tout le temps mis en milieu droit, et franchement Jalais, il a vraiment été parfait sur tous les matchs qu'il a disputé. À chaque fois ça se voit que c'est un mec qui se bat sur le terrain, et franchement on n'a pas besoin d'un mec en arrière droit. Chara, pour le moment, il tient largement la baraque derrière, et franchement c'est pas utile de le mettre en arrière droit alors que c'est vraiment c'est une super solution
pour le moment. Il assure, mais pour l'instant il assure, mais à un moment il va pas assurer.
Bah depuis on va dire il a fait combien de matchs en tant que titulaire? Il a fait 4-5 matchs titulaires, 2-3 entrées, à chaque fois il a été parfait, hein. Franchement moi j'ai rien à lui reprocher depuis le début de la saison, moi. Au contraire.
Oui, c'est vrai que pour le moment, je peux pas dire grand-chose, mais par exemple, je sais pas moi, remettre en cause le travail de Gourcuff, qui par exemple a relancé des mecs comme Abriel et qui les a mis à des postes où ils étaient mieux, alors qu'avant ils s'évertuaient à jouer. Par exemple, pour Abriel, quand il est venu à Lorient, il était milieu offensif, attaquant, et il a beaucoup reculé avec Christian Gourcuff. On a vu que ça avait marché. Pareil avec Jalais, il s'est fait remarquer et acheté par le PSG à cause de ce repositionnement. Pareil pour Morel, qui à la base était un attaquant qui n'avait presque aucun avenir dans le centre de formation de Lorient, qui aujourd'hui est arrière gauche. Pourquoi s'évertuer à détruire ce travail? Moi, je suis vraiment suspect.
Enfin, je sais pas pourquoi, mais on l'a testé 2-3 fois en tant que joker, en le faisant rentrer dans les 30 dernières minutes en tant que milieu droit. À chaque fois, l'expérience a été positive. Alors, je vois pas pourquoi Camboré s'entêterait à le mettre en arrière droit, alors qu'on a un mec comme Tiara qui est très bien. Je vois pas. Pour moi, enfin, je vois pas de problème, hein, pour le moment, hein, de le mettre milieu droit. Ça ne pose aucun problème. Au contraire. Hein. Il fait des bonnes performances. Ce soir, il fait 3 passes décisives. On peut pas le remettre en cause pour le moment. Hein. Après, j'attends de le voir s'il fait des mauvais matchs à ce poste-là. Mais pour le moment.
Mais là, vous le trouvez excellent milieu droit. Mais je veux dire, si vous le faites jouer arrière droit, vous allez l'oublier, quoi. Je veux dire, c'est un bon joueur milieu droit, mais arrière droit, c'est un excellent joueur de Ligue 1.
Mais franchement, il est excellent. Pour le moment, il est vraiment excellent en milieu droit aussi. Hein. Enfin, je sais pas si tu regardes beaucoup les matchs du PSG, donc je sais pas.
Si, j'ai suivi en début de saison où il avait fait des belles entrées, où il avait été décisif et tout. Mais j'avoue, depuis, je ne regarde plus. Depuis le dernier match Lorient PSG, je n'ai plus regardé le PSG.
Voilà. Donc, il n'avait pas été exceptionnel face à Toulouse sur le champ de patates là il y a 3 semaines. Bon, un peu comme tout le PSG. Mais là, franchement, là, il a été bon. Je sais pas si tu te souviens de son match face à Lyon. Il avait vraiment été excellent encore à ce poste-là. Pour le moment, je vois pas pourquoi on le mettrait en arrière droit. Tiara, moi ça me va. Après, si on mettait Tiara sur le banc, ça me ferait un peu chier, quoi. Donc,
Par rapport à Jalais, je comprends pas trop où tu vas en venir, Aurélien. Je crois que c'est un peu l'amertume. tu aimes Gourcuff, donc ça te fait un peu mal de voir que qu'il est bon en milieu droit alors que à Lorient il avait plutôt l'habitude de jouer arrière droit, mais il est excellent, il a ce soir, il fait encore 3 passes décisives. Je vois pas pourquoi on le remettrait en cause. Par contre, il y a un truc où je suis pas d'accord, je sais pas si Adrien pourra confirmer. Tu as dit qu'il était venu au PSG par son repositionnement qui a réussi en arrière droit, mais je pense que une des premières raisons du recrutement de Diallo au PSG, si je me trompe pas, c'est sa polyvalence, parce qu'il peut jouer dans l'axe également en défense et aussi milieu droit.
Ouais, il était surtout pressenti déjà pour une doublure de Tchara en arrière droit, puis après pour être une option aussi en défense centrale. Donc c'est vrai qu'au début de le voir au milieu droit, c'était un peu la surprise. Enfin, on s'attendait pas à le voir à ce poste-là en fait.
Non, je sais pas, c'est de l'amertume. Moi, je suis très content de voir Jallet réussir. Et quand il est parti, j'ai dit j'espère qu'il va réussir, etc. C'est juste que je trouve dommage, vu le talent de Jallet, de casser tout le boulot qu'a fait Christian Gourcuff pendant des années en le faisant milieu droit. Mais c'est, pour l'instant, il a, c'est bien. Mais à un moment, s'il fait des mauvais matchs et tout, il va plus avoir la confiance, il va plus jouer, et puis on va jamais le voir arrière droit, et ça va être dommage. Je sens que ça va aller comme ça. Après, j'espère que Adrien, tu as raison.
Lance de Jallet. Qui sait, comment, peut-être que là il est en train de le découvrir à un autre poste et que peut-être qu'il se révélera encore meilleur qu'au poste de latéral droit.
Ouais, mais comme son poste de formation, c'est milieu droit.
Tu viens de dire justement que Gourcuff a su le repositionner. Pourquoi Camboire ne réussirait pas à le repositionner en milieu droit?
Parce qu'il a pas réussi en Ligue 1 à Lorient en milieu droit.
Ouais, mais à Paris, il a réussi.
Pour l'instant, il réussit. Je vois pas. Pour l'instant, pour moi, on peut pas le remettre en cause, sachant qu'en plus ce soir, c'est un des meilleurs sur la pelouse et il est excellent.
Pour l'instant, tout va bien, mais je pense qu'un jour, ça va pas aller et ça va aller mal. Ça va être négatif autant pour le PSG qu'autant que pour Jallet. Et j'ai peur que ça arrive. Après, je dis juste, c'est peut-être une crainte. Après, moi, j'espère de tout cœur que Jallet devienne milieu droit titulaire au Paris Saint-Germain. Hein. Il y a pas de.
S'il n'était pas bon à ce poste-là, au bout de 11 matchs, il réussissait pas quand même. Là, ça fait quand même 11 matchs qu'on l'a mis à ce poste-là. Et il a toujours fait des bonnes performances. Ça m'étonnerait que du jour au lendemain, ça part en cacahuète, quoi. Enfin, ça m'étonnerait.
J'espère que tu as raison.
Mais aussi, Paris possède un des meilleurs arrière droit du championnat avec Tchara et. Et mettre Jallet pour mettre Tchara où? Voilà, aussi la question. Mettrais Tchara?
Voilà, de virer Tchara, moi ça me ferait vraiment chier, quoi. Après, Tchara, on peut aussi l'utiliser en milieu droit, mais c'est vrai, là, c'est pas son poste de prédilection du tout, quoi.
Donc, ouais. Voilà, Tchara sur le point. Alors. Donc, merci Adrien, toi qui es supporter du PSG. On accueille un autre supporter du Paris Saint-Germain, décidément. On est un peu encerclé, là. Salut Khaled.
On est en famille.
Ouais, salut Khaled. Ça va?
Ça va. Et toi?
Ça va. Bah ouais, après cette belle victoire parisienne, ponctuée avec beaucoup de réalisme, surtout en deuxième mi-temps, et voilà, Paris revient un peu dans le coup, dans le bon côté du championnat, après une série assez négative du club. Maintenant, on va recevoir Nice. Je pense que on va gagner, mais bon, il faut rester prudent parce que Nice est en train de se réveiller, en train de retrouver un semblant de jeu et faut pas tomber dans la facilité le week-end prochain. Si on gagne après qu'on fait un bon match au Vélodrome pour le match en retard, ça serait peut-être un peu le renouveau du PSG, mais bon, faut rester prudent après cette victoire à Sochaux.
Oui. Voilà, merci Khaled. Et au niveau des satisfactions individuelles, Adrien a ressorti ses saignons, c'est ouais. Jallet qui a été exceptionnel, qui d'autre?
Erding aussi, porte bonheur.
Erding aussi, ouais. Erding, ouais.
En fait, si tu veux, cette saison, si Erding ne joue pas au PSG, Paris ne gagne pas.
C'était ça, ouais. Voilà, il revient de blessure et le PSG renoue avec le succès.
Il y a un parallèle assez impressionnant, le PSG a pris 13 points sur 15 possibles avec Erding et 4 sur 15 sans Erding.
Voilà,
être le porte bonheur. Moi, j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que on parle toujours du héros du match. Le héros du match, ça peut être Erding, mais on peut aussi parler du zéro du match. Et là, le zéro du match, on peut l'attribuer au plongeon de Peggy Lulindula quand même, parce que franchement, moi, j'ai vu l'action il y a quelques minutes. Franchement, on peut se demander si la ligue va prendre des sanctions rétroactives à un moment donné, parce que ça.
Ouais, mais attends.
Parce que je suis d'un match. Moi, je ne suis ni parisien.
Attends, parce que là,
si on veut
sanctionner, Peggy Lulindula, il faut sanctionner tous les plongeurs du championnat, parce que
je veux bien qu'on,
ouais, parce que c'est pas le premier, ça sera pas le dernier qui va essayer de tromper l'arbitre avec un plongeon assez exagéré, mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, l'arbitre ne peut que siffler penalty, hein, faut vraiment la vidéo pour ne pas siffler penalty. Maintenant, faut pas prendre le PSG en pavillon témoin, comme on l'a souvent dit dans cette émission, parce que Paris, à chaque fois, c'est eux qui est, on dirait, le rat dans un laboratoire qu'on fait toutes les expériences. Je sais pas moi, mais faut rater avec le PSG. On est toujours le bouc émissaire quand il y a une nouvelle loi, quand il y a des nouveaux consigne arbitrale, voilà quoi.
Oui. Comme tu le dis, on sait que le PSG à plusieurs reprises a été, bah, comme tu le dis, un peu le rat de laboratoire des nouvelles sanctions testées.
Le cobaye.
Mais le cobaye. Mais là, je sais pas si la Ligue prendra des mesures pour cette simulation. Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup, mais le truc, c'est que là, ça amène un penalty après.
Ça fait basculer le match.
Moi personnellement, je m'en fous, hein, qu'il soit sanctionné ou pas.
Si je peux me permettre, je crois que peut-être le débat ne se situe pas là, parce qu'effectivement, il a raison, notre ami Ralette. C'est toujours facile, en plein milieu d'une saison, de dire oui, X joueur, X équipe. Je crois que c'est avant le début des saisons qu'il faut débattre de ça. Et c'est toujours quand on rentre dans plein milieu de la saison qu'on dit peut-être qu'on mettra la vidéo et les sanctions rétroactives, c'est-à-dire un joueur qui n'a pas été correct, on le sanctionnerait dans une commission. Parce que c'est vrai, il a raison, l'arbitre peut pas tout voir, en plus ça va très vite. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment parler de ça. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, et dans tous les championnats, moi je parle du championnat belge, championnat français, dans tous les championnats, c'est toujours pareil. On dit, on en parle pendant la saison, et au moment où on doit prendre les décisions, c'est-à-dire avant ou après chaque saison, à l'intersaison, eh bien là, on n'en parle de rien, on ne fait rien, et le problème est reporté à la saison prochaine. À chaque fois, c'est toujours le même problème. Donc là, c'est un vrai problème, et que la Ligue 1 ne traite pas, je trouve. Enfin, c'est mon avis.
Bah en fait, si tu veux, la Ligue 1 traîne cette histoire de vidéo comme un boulet depuis plusieurs années maintenant. Mais bon, c'est pas vraiment de leur faute parce que la Ligue 1 ne peut pas se créer des nouvelles consignes d'arbitrage, parce que c'est l'International Board qui doit valider ou non des évolutions technologiques au niveau de l'arbitrage. Maintenant, voilà quoi. Mais voilà, comme t'as dit, moi je suis plutôt d'accord avec toi. C'est qu'au début de saison, vaut mieux dire les choses. Qu'est-ce qu'on risque de faire si un joueur fait ça, si un joueur fait ci, et ne pas en plein milieu de la saison. Voilà, parce que le PSG déjà c'est l'un des clubs avec Marseille qui sont grave surveillés au niveau arbitrage. Déjà, quand il y a un truc bizarre, pas sifflé, quand il y a un truc bizarre, mais quand il y a un truc bizarre, quand ce soit Paris ou Marseille, direct on en fait des montagnes, direct ouais, il faut qu'on change ci, il faut qu'on change ça, mais quand il y a un petit club, un petit joueur qui arrive dans un penalty illicitement, et bon, on n'en parle pas, parce que c'est pas médiatisé, c'est parce que je joue pas dans un club médiatisé, tout simplement.
Ouais, voilà. Mais aussi on peut aussi dire quelque chose, c'est que après la Liga, les ligues francophones, elles ont toujours le même syndrome, c'est le syndrome de Calimero. C'est-à-dire que quand elles ne font rien, elles disent c'est parce que nous ne sommes pas aptes à faire cela, c'est parce que les lois françaises ou belges ne le permettent pas, c'est parce que tout ça se gère au niveau de la FIFA. Moi je suis désolé, moi je prends un autre exemple, ce qui se passe en Allemagne, ils le font très bien, il y a des sanctions rétroactives qui se passent, quand ils voient qu'un joueur n'a pas bien agi, ils le sanctionnent la semaine suivante.
Parce que en Allemagne, ils se sont tous mis d'accord, tout simplement. Et en France, on ne sait pas. Oui, mais Je ne sais pas si on peut faire ça, si on va faire ça, ça va faire des histoires à gauche, à droite. Tandis qu'en Allemagne, dès le départ, ils annoncent la couleur. Voilà, si un joueur fait ci, il fait ça, il risque ça, il risque ci. Tout simplement, tu vois, c'est... parce qu'en Allemagne, ils sont sur la même longueur d'onde. En France, on ne sait pas sur quel pied danser.
C'est un peu ça, oui.
Voilà.
Roméo, voilà.
Non. Pas grand chose à dire sur. Bon, sur l'arbitrage, on dévie un peu, mais voilà, je pense qu'on a
mais
été.
Je pense que pour conclure sur ce match-là, je pense que Paris mérite sa victoire. Parce que, à part. Franchement, j'ai pu voir le match et Sochaux n'a pas été très dangereux. Ils nous ont pas surdominés. Ils ont plutôt bien joué en passe. En une touche de balle, j'ai pu voir quelques actions assez belles à voir. Mais c'était très timide devant les cages de Grégory Coupet. C'était très timide. Et Paris a été très 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 réaliste au but et il a été on va dire qu'ils ont fait le métier quoi, tout simplement. Ils ont été réalistes, ils ont retrouvé des jambes surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en fin mi-temps c'était pas trop ça, mais la deuxième mi-temps a été très très pas impressionnante, mais a été très très bonne pour les Parisiens. Il faut qu'ils appuient dessus pour le match contre Nice au Parc.
Oui Adrien.
Je sais pas ce que t'en penses, Ralen. T'as dû voir les matchs du PSG au début de la saison, mais tu trouves pas que la physionomie du match, ça ressemble un peu au match du début de la saison?
Pardon?
On n'est pas convaincant, mais on plante quand même 3 buts. C'est comme un
exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Aurélien. Surtout quand tu vois le match contre Lille. J'ai pu voir le match contre Lille où on gagne 3-0. Franchement, Lille. Ils sont mal payés parce qu'ils méritent pas le 3-0, ils méritent peut-être aller 1-0 à l'arraché, mais le 3-0 a été très très flatteur pour Paris, hein. Ouais. Par exemple, hein. Tu vois, par exemple, t'as d'autres matchs comme ça où on croit que on a été très supérieur, mais en fait c'est un feu de paille quoi, qu'il faut pas se cacher au PSG, c'est qu'on a pas de fond de jeu. Ça, je l'ai toujours dit, je le redirai, je pense, pendant toute la saison. Mais sur ce qu'on peut s'appuyer cette saison, c'est que on a quelques coups d'éclat en contre-attaque avec Cessignon, qui a été très bon ce soir, par exemple, dans l'axe, qui aura pu finir quelques actions. Mais ça, c'est, on commence à être habitué avec Cessignon qui finit jamais ses actions. Ça, c'est un truc qui m'énerve encore, mais ça, c'est un autre sujet.
Bah, c'est pas nouveau ça.
Bah, c'est pas nouveau, mais ça commence à vraiment. Bon, heureusement, ce soir, on gagne. Mais il y a un match contre Nancy où on a fait un partout. S'il marque la dernière action du match, il marque le but de l'année et il le marque pas et c'est rageant, par exemple. Tu vois, c'est 2 points perdus encore.
Ouais, mais ouais. Il a quand même été beaucoup plus convaincant que ces matchs face à Toulouse et face à Nancy. Il était catastrophique sur le match. Il voit 5 minutes et après il en a rien à faire du match. Là, tu vois, je le sentais beaucoup plus impliqué que ces derniers matchs avec le PSG où il était pourri. Mm-hmm. Là, il a été meilleur.
Ce soir, elle a été meilleure, c'est vrai. Mais heureusement, je pense que le report du match contre Marseille a fait du bien au PSG. Ça leur a donné plus de temps pour mieux préparer ce match contre Sochaux. Et heureusement, mais bon, je pense qu'encore une fois, le score à Sochaux est très flatteur. Hein. Je pense qu'il est encore très. Je pense que 2-0 aurait été un score logique pour nous, parce que Sochaux ne mérite pas de gagner contre nous et voilà quoi.
Voilà pour ce match Sochaux Paris Saint-Germain et la victoire. Comme on a pu le rappeler, 4-1 du Paris Saint-Germain enterre Montbéliard. Au niveau du classement, le PSG fait un rapproché et le PSG se trouve maintenant en 7e position. Non, je me trompe. 6e, voilà.
6e.
Le PSG. Voilà, le PSG se retrouve 10e avec un match en moins. 16 points. Comment?
Et quand on vous tape, on est 6e.
Ouais, bah, ça dépend s'il n'y a pas une autre épidémie de grippe. Ah. Voilà.
Non, c'est bon.
Et surtout, le Paris Saint-Germain.
On va finir
une série de 5 matchs sans victoire. Hein. Ça, c'est aussi important. Voilà,
exact.
Marseille, Tarlouse.
On commençait presque à s'y habituer.
Je ne dirai pas ça. Je n'irai pas jusque-là.
PSG, t'as un peu plus reposé que Sochaux quand même.
Oui. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'Angleterre. On a fini la, la Ligue 1, voilà.
Oui. Oui, avec le championnat anglais considéré par beaucoup comme le meilleur championnat européen et le leader Chelsea qui s'est imposé 4-0 lors de la 11e journée de championnat face à Bolton. Il se trouve qu'ils avaient battu Bolton, mais en cup cette fois-ci, 4-0 aussi, mais à Bolton, c'était mercredi, donc quelques jours avant, comme quoi l'histoire peut se répéter. Les buteurs Lampard, Deco et Drogba complètent un autobut de Knight, 4-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement pour eux, les Blues ne se détachent pas des Reds, des Diables Rouges de Manchester United, car Manchester United, il a battu à Old Trafford à la maison Blackburn sur le score de 2-0, de buts signés Dimitar Berbatov et Wayne Rooney. Arsenal, troisième, complète le podium, pardon. Les Gunners ont remporté le derby de Londres. Victoire 3-0 aussi contre Tottenham. Décidément, le top 3 a répondu présent. Tottenham qui n'était pas loin d'Arsenal. Hein. Je crois qu'ils avaient le même nombre de points qu'eux avant le match. Donc c'est une victoire très importante dans un derby qui plus est. Ce résultat permet au club d'Arsène Wenger de rester à 3 points de Manchester United et à 5 points de Chelsea avec un match en moins. Il permet aussi, par la même occasion, forcément aux Gunners de se détacher de leur adversaire du jour, Tottenham. Donc ils prennent 3 points d'avance et un match forcément aussi toujours de moins que leur ami camarade londonien. Arsène Wenger, ouais. Parlons-en. Il a tout juste 60 ans, il a atteint les 1000 points en championnat. C'est pas un record puisque Sir Alex Ferguson avait fait mieux que lui. Retenez-vous bien, ça fait une moyenne puisqu'il est là depuis 96 à Arsenal. Ça fait une moyenne de plus de 75 points par match, par championnat, pardon. 75 points par match,
ça ferait beaucoup.
Ce serait énorme. 75 points par championnat.
Presque 2 points par match.
C'est énorme parce qu'on sait qu'il est là depuis plus de 13 ans et donc à 60 ans, il a encore, à mon avis, de belles années devant lui dans le club d'Arsenal. On parle de Manchester City. Manchester City a coincé nul blanc à Birmingham City, tiens, entre deux amis de la cité, sans Emmanuel Adebayor. Match nul donc 0-0 contre performance pour Manchester City. Mais Manchester City coince, mais Liverpool cool. 3-1 défaite à Fulham, ça va très mal pour les Reds. Sixième défaite en 7 matchs, sans Steven Gerrard, sans Johnson, sans Aquilani, mais avec Torres titulaire. Torres qui a d'ailleurs marqué le premier but avant d'être remplacé en deuxième mi-temps, car son entraîneur voulait le préserver en vue du match de Ligue des Champions qui aura lieu contre Lyon. Les bourreaux de Liverpool sont Zamora, Nevland et Dempsey qui ont donc répondu au but de Torres. Alors un petit point sur le classement, Chelsea est donc premier avec 27 points, 2 points d'avance sur Manchester United, avec 5 points d'avance sur Arsenal, qui compte, je l'ai dit, un match de moins. Manchester City est quatrième pour le moment, il décroche. Manchester City, 8 points de retard sur le premier. Tottenham, cinquième, à égalité de points avec Manchester City et Liverpool, qui peut presque déjà dire adieu au titre, pardon, avec 9 points de retard en 11 journées. C'est énorme. Les 3 derniers sont Hull City, West Ham et Portsmouth, qui, eux, commencent dangereusement à s'enliser dans la zone rouge. Pour ces 3 clubs-là, il est temps de réagir car les résultats ne sont pas bons ces dernières semaines et ils commencent à s'enchaîner, notamment pour Portsmouth. Je crois que maintenant, Roméo, tu vas nous dire un petit peu l'actualité en Italie et les résultats de la Serie A.
Exactement, on va passer tout de suite à la Serie A. Pas de jingle, dommage, on va passer donc tout de suite à la Serie A. Merci. Je ne sais pas qui je dois remercier là. Donc, l'Inter qui s'en est allé gagner à Livourne, 2-0. La Sampdoria Gênes et Bari qui ont fait 0-0. Puis la Fiorentina qui a battu Catane 3-1. Le Chievo et Udine qui se sont séparés sur un score de 1 partout avec notamment un but de l'ancien Parisien, le Colombien Mario Yepes. Cagliari qui a étrié l'Atalanta Bergame 3-0. L'AS Roma qui reprend un peu de souffle et qui a battu à domicile Bologne 2-1. Sienne et la Lazio ont fait 1 partout et c'était là à l'instant, ça s'est joué en même temps que Sochaux PSG, le match en prime time de la Serie A. Et ben la montagne a accouché d'une souris, Palerme et Genoa se sont quittés sur un score de 0-0 au classement. Donc Palerme fait un des plus gros gadins de la semaine. Perd 3 places et se retrouve 10e. La plus grosse progression, c'est à mettre à la, le plus gros gadin, pardon, c'est Parme qui redescend 8e alors qu'ils étaient 4e. Cagliari gagne 4 places alors que Cagliari était 13e. Il se retrouve 9e. Et au niveau des 4 premiers, c'est toujours, donc les 3 premiers, toujours l'Inter, la Juve, la Samp. Et juste derrière suivent le Milan, la Fiorentina et Naples, qui, on le rappelle, a battu la Juve au stade Saint-Paul. Au stade, pardon. Qui a battu la Juve 3-2. Comment?
Ça a été un super match.
Oui, donc un extraordinaire retournement de situation, on en a parlé hier.
Exactement. Très bon match avec un super Hamzik, Marek Hamzik pour Naples, et comme d'habitude, Ezequiel Lavezzi, très très bon aussi, qui a fait beaucoup de mal dans la défense turinoise, et aussi on a pu voir le retour de Trezeguet.
Voilà, comme tu l'as dit. D'ailleurs, Hamzik t'en a parlé, il a mis un doublé, donc il se place maintenant deuxième position à égalité avec Milito et Pazzini dans le classement des buteurs. Classement des buteurs toujours dominé par Antonio Di Natale, le buteur de l'Udinese. Même si il n'a pas marqué à cette journée. Donc voilà, le classement du fair play, je vais pas vous le dire, je suppose que vous en foutez un peu. Donc on rappelle, voilà, l'Inter. Oui, donc l'Inter toujours première de Serie A avec 28 points. Et bon dernier, c'est Sienne avec 6 points. Donc voilà pour la petite page Serie A. À noter que Stephen Appiah, oui, notre bon vieux Stephen Appiah, a trouvé un club et il a signé à Bologne dans la soirée.
Très bonne recrue pour Bologne. Très bonne recrue pour Bologne.
Eh ben, c'est Khaled qui le dit. Donc
moi,
on va te faire
confiance. Je le dis, faites-moi confiance. Très bon joueur.
Ah bah voilà. Et autre point de transfert, c'est Adia, l'attaquant ghanéen de 20 ans qui a été la star du champ.
Future perle.
Voilà, qui a été recruté par le Milan AC. Il jouait à la Feyenoord Academy du Ghana, donc bah c'est la filiale de Feyenoord au Ghana, et c'est un transfert d'environ 1,7 million d'euros. Un pari pour l'AC Milan. Donc à 20 ans, il a marqué 17 buts en 16 sélections. Donc voilà.
Suivre. Il a été MVP, il a été meilleur buteur et il a gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec le Ghana.
Et ben voilà. Il quitte donc Frédérikstad pour rejoindre l'AC Milan. C'est au-dessus quand même. Voilà. C'est un niveau supérieur. Donc voilà, Atia qui rejoint l'AC Milan, et voilà, cher Chris, pour cette petite page sur l'Italie.
Parlons tout de suite du championnat allemand, le championnat Bundesliga. Jingle. Oui. Voilà, avec le championnat allemand, et grâce à un but du Brésilien Marek Wesul, et d'une frappe enroulée de 18 mètres, absolument sublime, je vous le conseille si vous avez envie de la voir, Hoffenheim s'est imposé 1-0 sur le terrain de Fribourg. L'équipe visiteuse a dominé la rencontre et aurait même dû se porter en tête si Ibisevic n'avait pas raté la manca plusieurs fois. C'est vrai que là, à mon avis, il va se faire sévèrement gronder par son coach. Ce succès, aussi précieux que mérité, permet à Hoffenheim de chipper la 5e place au Bayern de Munich. Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour le Bayern de Munich, où ça ne va plus beaucoup entre les blessures, les éclopés, ceux qui reviennent, ceux qui ne sont pas encore revenus. Ça promet, le Bayern de Munich qui a dû se contenter d'un match nul 0-0 sur le terrain de Stuttgart, c'était pas fameux. Toujours aussi laborieux et sans grandes inspirations dans le jeu, les hommes de Van Gaal stagnent. Ils sont désormais 6e, donc dépassés par Hoffenheim. Parlons un peu de Stuttgart aussi, éliminé cette semaine en Coupe d'Allemagne par un club d'une division inférieure. Stuttgart sauve la tête de son C1, Marcus Babbel. Aurélien, je crois que tu as un mot à dire sur Stuttgart.
Oui, bah c'est dommage qu'on n'ait pas perdu.
Aurélien, attends, par contre c'est pas Stuttgart, c'est Stuttgart.
Oui, merci d'avoir fait la remarque, c'est Stuttgart. Et juste une remarque, malheureusement on n'a pas perdu contre le Bayern Munich, donc Babbel reste en place. Enfin, il a un sursis jusqu'à mercredi à la Ligue des Champions. Et donc les incompréhensions tactiques et tout vont continuer, les mauvais résultats. Je rappelle quand même que Stuttgart, actuellement 14e, avec le même nombre de points que le premier reléga, ce qui est quand même inadmissible pour un club comme le nôtre qui vise une place européenne en Bundesliga. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et puis j'espère qu'on va se faire éclater par Séville mercredi, et puis que Babbel va dégager, parce que j'en commence à en avoir marre de ces compositions loufoques, comme par exemple face au Bayern de Munich, on jouait en une sorte de 4-2-3-1, oui. Avec
Hichtelger,
qui jouait ailier gauche, un peu bizarre, et Kuzmanovic derrière lui, mais peut-on m'expliquer la logique de cette composition? Et Et puis surtout, Marika titulaire, alors qu'il ne jouait plus depuis quelques matchs, alors qu'on a acheté Pogreniak pour je ne sais plus combien de millions, et monsieur ne joue pas. Mais que se passe-t-il? En tout cas, vraiment incompréhensible. Donc, c'est triste de dire ça, mais j'espère que Séville va nous étrier mercredi, parce que, voilà. Marcus Babel,
Le VFB qui va pas trop bien, hein. Tu l'as dit, 9 points en 11 matchs, c'est vrai que c'est pas vraiment fameux. L'entraîneur est sur la sellette. Et le président n'a vraiment pas apprécié la défaite en coupe contre un club d'une division inférieure. Enfin, c'est vrai que les jours de Marcus Babel semblent compter, mais grâce à ce résultat plutôt positif, ce match nul face au Bayern, je pense que la décision de le virer, de le remercier pour dire cela poliment, est postposée du moins pour le moment.
Oui. Et par rapport à Marcus Babel, Marcus Babel, bien sûr, on en parlait avec Aurélien hier en off pendant l'émission. Il a pris l'équipe l'année dernière après le licenciement d'Armin V, qui faisait aussi un début catastrophique. Et il a pris l'équipe et il a enchaîné une série de je ne sais plus combien de matchs de sans défaite d'affilée. Et a fait un très bon final pour finalement placer Stuttgart en troisième position. Le problème, c'est que Marcus Babel a montré ses qualités d'intérimaire, mais pas forcément de manager, parce qu'il a peiné durant ce mercato. Le mercato n'a pas été bien fait. Il y a quasiment aucun ailier. On fait jouer Cacao ailier gauche. Ça va pas du tout. Donc le mercato a été mal fait. D'ailleurs, je parlais de Cacao ailier gauche. Et hier, c'est Hitzberger qui a joué ailier gauche. Donc c'est n'importe quoi, la tactique change toutes les semaines. Et il a montré ses limites au niveau mercatique, au niveau du mercato, Marcus Babel. Et j'avais du respect pour lui, mais il fait un excellent intérimaire. Mais en tant que manager d'une équipe comme Stuttgart qui vise l'Europe, voire le titre en Bundesliga après et faire bonne figure dans un groupe qui paraissait à première vue largement prenable en Ligue des Champions, et ben ça suffit pas.
Oui, Aurélien. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on en a parlé hier, on en a longtemps débattu, et puis comme tu dis, oui, je crois que Babel, il était pas fait pour, il était fait pour venir et donner un coup d'élan à une équipe, mais pas pour construire sur le long terme. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas, puisqu'il a du mal au mercato, il a eu totalement du mal. Je veux dire, on a recruté Pogreniak pour les dernières semaines d'août, Kuzmanovic est venu la dernière semaine, même le dernier jour. Donc on a vraiment eu du mal à faire un bon recrutement. Et puis là, on voit que ça souffre, et puis moi, ce que je comprends pas, c'est, par exemple, on allait mal, et puis on se relance avec Klepp qui joue titulaire, avec Cacao qui joue avec Pogreniak, ça marche bien. Et puis la semaine d'après, tous ces joueurs-là sont sur le banc. Oui. Que se passe-t-il? Et on perd. Et le match d'après, on change encore de tactique. C'est incompréhensible, je sais pas, on n'a jamais vu le même 11 depuis le début de la saison, et on voit que ça nous réussit pas. Et là, on a fait un nul qui peut être un bon nul face au Bayern de Munich, quoique vu l'état actuel du Bayern de Munich, donc c'est pas vraiment une bonne performance. Bon, j'espère que ça va, ou que Babel va dégager, qu'on va avoir un électrochoc, ou que Babel va réussir à, s'il peut redresser la situation, moi je suis pour, mais j'en doute.
Oui, et comme t'as parlé du mercato, j'en ai parlé, si durant le mercato il y a plusieurs pistes de joueurs qui susceptibles de jouer ailiers sur les ailes qui se sont pas faites alors que c'était très très proche, Jovanovic par exemple, le Serbe du Standard. Voilà, il y avait aussi Dembaba qui, bah, finalement, ça s'est pas fait non plus pour un problème de genou. Alors que là, on le voit rejouer avec Hoffenheim et Huntelaar également. Il y a aussi la piste Huntelaar et finalement, on s'est retrouvé avec Pogreniak et Celozzi en doublure de Dosorio. Finalement, on découvre même Trash à ce poste-là. Et Kuzmanovic qui pour moi n'était pas nécessaire, surtout quand on avait une belle base en 4-4-2 et un milieu Hitzberger qui dira qui fait partie des meilleurs d'Allemagne, c'était pas du tout prioritaire comme choix de au niveau du mercato, voilà, pour compléter.
Peut-être quelques réactions sur le forum. Alors, Joe me demande qui je suis, celui qui parle sur le championnat anglais. Mon prénom est Christophe, enchanté. Et la Fourrère Rora qui nous dit que Babel, tout comme...
Il aime les femmes, dommage.
J'ai essayé. Babel tout comme Redilo à l'Atlético, qui avait bien sauvé la situation quand il est arrivé, qui a mal vieilli sur le banc. Il nous dit aussi, et c'est important, c'est très important, faut le préciser, que le Deportivo La Corogne lui a fait perdre sa cote, et donc son match, et donc voilà, on l'a mentionné.
Côté match. Je te précise, Chris, parce que tu es belge, côté c'est match, c'est l'auto-foot français, voilà. Exactement.
Et on lui sait de manger
sa cote. Il a pas perdu sa cote et son match, non.
Je sais pas, excuse-moi, voilà. C'est des sociétés françaises, il y a erreur sur la marchandise. Oh, oh, oh. Donc voilà. Voilà, et on lui souhaite de manger de très bonnes crêpes et d'ailleurs.
Il nous dit aussi de manger des crêpes.
Exactement, et on va les manger avec lui. Et on salue tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir, vous voyez que toutes vos réactions, même les plus loufoques, passent à l'antenne, on se fait un plaisir, je me fais un plaisir, de les retranscrire. Alors on continue en parlant.
D'ailleurs, Chris, vas-y. Oui. En parlant d'Espagne, si... la Furia Roja, si tu veux parler de l'Atlético, viens, tu es bienvenu, tu peux nous donner ton numéro de téléphone, comme tout le monde peut nous donner son numéro de téléphone et passer à l'antenne, parler avec nous, parler avec ce magnifique animateur qui est Chris, parler avec Khaled, parler avec tout le monde, là, et ben, donnez votre numéro de téléphone, on va pas vous harceler, on va pas vous bombarder de pubs, mais on va vous faire passer à l'antenne, donc, n'hésitez pas.
Très très bonne intervention, et je répéterai deux choses aussi, enfin surtout une chose, c'est que vous pouvez évidemment réagir, mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez, si vous ne voulez pas parler d'un sujet, on ne vous impose pas, vous voulez réagir, vous intervenez quand vous le désirez, et c'est ça la différence. Non mais il y a beaucoup de gens timides qui se disent, ouais mais s'ils m'interrogent sur un X ou Y sujet que je ne maîtrise pas, eh bien c'est précisé, vous intervenez sur le sujet que vous voulez, sur le sujet que vous maîtrisez, important de le dire, et vous n'hésitez pas à continuer à poster vos réactions, je l'ai dit, toutes vos réactions sont évidemment les bienvenues, et elles passent à l'antenne, CQFD. Continuons donc à parler du championnat d'Allemagne, après il y aura un quiz, je crois que notre ami Aurélien nous a préparé un quiz très très intéressant, mais d'abord, les choses sérieuses, le championnat allemand avec le match nul du Werder de Brême 2-2 sur la pelouse de Nuremberg grâce à deux buts du jeune
Werder, Arnold. Pas Werder.
Ouais, mais ma prononciation, je me tromperai sur tous les mots si tu veux, hein, c'est pas grave. C'est la prononciation made in Belgium. Donc voilà. Et Nuremberg qui tient en échec le Werder de Brême Werder de Brême qui se sauve quand même grâce à deux buts du jeune Aaron Hunt, pardon. Lui, je peux vous dire que dans les prochaines années, on va beaucoup entendre parler de lui. Il a 23 ans, c'est un jeune Allemand et qui marque pas mal et qui a beaucoup de talent. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais il faut bien dire que la grosse surprise en Bundesliga, elle est venue de la Nordbank Arena où Hambourg a concédé sa première défaite de la saison, mais un bilan quand même qui est plus inquiétant avec un 2 points sur 9, c'est pas beaucoup. Les affaires tournent mal pour l'équipe de Bruno Labbadia. Hambourg est 3e.
Labbadia,
pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Hambourg est 11e et ne profite pas du match choc de cette 11e journée. Le match choc outre-Rhin qui n'a vraiment pas déçu, il faut bien le dire. Le leader Leverkusen semblait avoir fait le plus dur, mais Schalke 04 et deux buts de Kourani et de Sanchez dans les 7 dernières minutes du match permettent à Schalke 04 de ne pas laisser se distancer par le Bayer Leverkusen qui fait du coup une très mauvaise opération au classement.
Même occasion, ça permet de laisser respirer un peu notre soccer's life.
Effectivement.
Au classement,
Leverkusen garde quand même la première place avec 23 points, mais ne s'envole pas, suivi de très près par le Werder de Brême. Hambourg est deuxième ex aequo avec le même nombre de points que le Werder. Schalke est pas loin. Hoffenheim est cinquième. Le Bayern décante un peu à la sixième place. Wolfsburg est huitième. Les choses se passent un peu moins bien pour Stuttgart, Cologne et Nuremberg qui sont à 9 points, qui se disputent la dernière place de maintien, les deux dernières places de maintien pour Bochum et surtout pour le Hertha Berlin. Les choses se compliquent de semaine en semaine. Est-ce qu'on peut passer au quiz vu qu'on a...
On a une réaction avant. On est obligé de lire la réaction encore une fois de la Furia Roja qui nous dit c'est ça ouais, prochaine étape, déshabille-toi sur MSN. Elle déchire cette nouvelle version des réactions qui passent à l'antenne et un Belge qui fait apparemment beau taf, ça fera peut-être revenir dimanche prochain après la victoire du 4-4 de Colcho sur le Real. Merci la Furia Roja.
Voilà. Et excuse-moi, je ne prononce pas bien les noms et le tien, je ne risquerai pas à le faire. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de passer au quiz que le monde nous envie, générique.
Si tu es un vrai passionné, le foot n'est pas de secret pour toi. Viens rejoindre l'équipe de Génération Soccer.
Et ben voilà.
Ah ben voilà.
À moi donc.
Qui a rejoint l'équipe de Genas.
Sans transition.
Toi, ben, c'est moi qui va reprendre les manettes du quiz après Jérémy qui hier a fait le quiz du samedi soir. Donc pour la première fois que je parle le dimanche depuis au moins le mois d'août, je vais prendre en main le quiz. Alors déjà, combien sommes-nous? Est-ce que Taratas est là?
Oui, je pense. Oui.
Est-ce que tu veux participer au quiz?
Non, ouais, nous sommes quatre à participer.
Très bien, je vais faire les équipes.
Mais non, on n'est pas quatre.
On est cinq.
Oui, mais lui ne participe pas, il pose les questions.
Ah d'accord,
oui, bon,
on est cinq. Oui, on est quatre, oui. Donc, voilà. J'ai tiré les équipes.
Je suis pour
Romero avec Raleigh.
Attends. Oh non.
Et Adrien avec Chris, donc.
Ok.
Oh, ah non, mais on est cinq.
Ah voilà, j'avais bien raison. Est-ce qu'on peut faire participer Dan?
Dan, ça ne veut-tu participer?
Dan veut participer, hein, mais...
Non. Ah, Dan ne peut pas. Moi, je propose que Dan, tu tires au pif quelqu'un qui est un des animateurs qui est connecté à l'instant même sur Skype, que tu l'appelles, et on voit avec lui s'il est chaud. C'est la magie du direct, on n'a pas prévu ça.
Ou Dan, sinon quelqu'un est...
Attends. Il manque plus que la sonnerie du téléphone à la sans aucun doute. On préparera ça.
Ah ben non, c'est bon. On a notre sixième qui va arriver. C'est Yak B. Voilà. Yak B qui va arriver pour faire le quiz avec nous. On vous demande juste quelques secondes de patience.
Voilà. Et de concentration.
Yak B qui est d'ailleurs en train de nous faire notre beau futur portail. Je sais pas si vous êtes au courant. Qui nous fait donc un beau portail pour qu'il y ait plus de place sur la radio, plus de place donc pour la radio, hein, pour le live aussi. Donc à voir prochainement, quand vous taperez soccers.fr, vous n'aurez plus l'accueil des forums, mais un beau portail construit par Yak B. Voilà, d'ailleurs, on l'attend, Yaku, il est là, oui. Attention.
Le correspondant que vous
Salut Yak B. Ah, mais... il veut pas répondre.
Ben, attends, je vais expliquer les règles du quiz, comme ça on va pouvoir commencer dès qu'il va arriver. Et ben, le quiz ce soir va être tout simple. Je vais vous poser toute une série de questions sur les championnats européens, vu que c'était la spéciale européenne. Et donc, c'est simple. Chaque équipe, chacune à votre tour, vous allez devoir répondre aux questions. Et chaque question vaudra un point, et c'est la première équipe qui a 5 points. C'est bon, vous avez compris?
Oui.
Oui, jusque-là, c'est pas trop compliqué.
Voilà, et je crois que Yak arrive. Donc ça
oui,
va être
Yak
bon
est avec nous.
Yak, es-tu avec nous?
Yak aime se faire désirer, je crois.
Ouais, bonsoir, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir, Yak. Eh ben, as-tu écouté les règles du quiz ou je dois te les rappeler?
Je veux bien que tu me les rappelles.
Eh ben, c'est tout simple, je vais poser une série de questions sur les championnats européens. Et chaque question vaudra un point et je pose chaque équipe aura une question et chacune à son tour et tu es avec Taratas. Ça te va?
Ok, ça devrait aller.
Voilà.
T'as pas le choix.
Et on commence donc avec Romero et Raled. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question?
Romero et pas Romero.
Oui, excuse-moi. Romero.
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 Voilà. Alors Romero et Raled.
On a le droit de se concerter.
Oui, mais rapidement.
On a le droit de se concerter.
Rapidement. Parce qu'il ne faut pas de recherche Wikipédia ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas?
Oui, non, mais.
N'est-ce pas? Avec l'info, avec Filimonov. Hein.
C'est qui?
Ah, Romero.
Oui. Donc, on commence.
Pas de Wikipédia.
Justement, direct. Alors, qui est le meilleur buteur historique de l'histoire de la première ligue anglaise?
Facile.
Vas-y, Raled.
Oh là là, je sais pas, moi. Shearer, je sais pas, Alan Shearer.
Oui, un point. Tout à fait, ouais. C'était
oh
Alan
Shearer.
Oh, le coup de bol. Oh, le coup de bol.
Il est bon. Mais c'est bon.
Alors, Adrien Chris, à vous. En quelle année a été créée la Liga professionnelle que l'on connaît aujourd'hui?
Non, mais c'est une blague, ça.
En 1857 avant Jésus-Christ.
1850.
Non.
Ouais, je dirais 1850.
C'est un indice quand même parce que j'avoue c'est compliqué. C'est au
début. J'irais même 659.
C'est au début. J'ai vu du 20e siècle.
Ah mais il a, c'est bon là, c'est faux. Il a dit 1860.
C'est bon, on a une chance sur sur.
Adrien, Chris, donnez une réponse. Début du 20e siècle, entre 1910 et 1940.
Bah donne la date aussi. Oui,
une chance sur 30, allez.
1925.
Non, c'était 1928.
Oh, un 3,
oh, vous n'avez pas trouvé.
Après 3 propositions aussi.
Terre Attaque, Yac, je veux le premier club italien à avoir gagné la Serie A italienne professionnelle.
J'avoue, c'était pas facile.
Nous, on n'a pas un indice aussi.
C'est un club du nord de l'Italie. C'est un club du nord de l'Italie.
Ouais.
Oh.
J'ai une idée.
Donnez à une équipe, vite.
Je sais pas. Vas-y, je te la laisse celle-là.
Mais il a dit Florence, il me semble. Donc non, c'était le Genoa. Donc et voilà, on va passer à Romeo Raled. Ouais. Romeo Raled. Je veux en Bundesliga.
Attends, on rappelle le score. On rappelle le score quand même.
Vous avez un, tout le monde a zéro. Voilà. Raled et Romeo en Bundesliga. Quel est le club qui a le plus de titres derrière le Bayern de Munich?
C'est le Bayern de Munich. Savoir.
Vas-y, Romeo, t'es mieux que moi en Bundesliga.
Je tenterai Schalke 04.
Eh ben non, c'était Nuremberg.
Donc, j'aurais pas trouvé.
Oh putain.
Alors, Adrien et Chris, quelles sont les deux équipes qui ont gagné le plus de championnats en première ligue anglaise?
Donc, en premier.
Oh, c'est simple.
Donc, moi, je dirais. Attends, on se conserve d'abord. Moi, je dirais Manchester United et Liverpool. T'en penses quoi?
C'est ce que je pense aussi, ouais.
Eh ben, c'est bon.
Et non.
Marquez un point.
C'est faux.
Alors, non, c'est bon. Yak, ils ont marqué un point. Yataz, je veux un ballon d'or brésilien ayant fini meilleur buteur du championnat néerlandais.
Ronaldo.
C'est trop facile.
Oui, c'est bon.
Ouais. Alias le gros.
Et t'as aussi Romario aussi.
Au PSV.
Bah oui. Ah oui, bah c'était vraiment dur.
97.
Il est donc, pas ballon d'or, Mario.
Non, donc c'était que Ronaldo.
Ah d'accord, ok.
Voilà. Donc Yak et Taratas, vous marquez un point.
Et après, on va devoir deviner le nom du Rubin Kazan en 1937.
Non, c'est pas ça.
Avant sa fusion avec le club.
Romeo Raled, je veux un ancien meilleur buteur de la Jupiler League tchèque ayant joué en France. Je répète, un ancien meilleur buteur de la
Ligue. Facile.
Barros.
Barros. Non, ce n'est pas Barros.
Yann Kohler.
Yann Kohler, merde.
Ouais, voilà.
C'était Yann Kohler. Marqué donc un
Adrien, Chris, combien de fois Raoul a-t-il été élu meilleur Pichichi, meilleur buteur de la Liga?
Ouf. Raoul.
Oui.
Yannick Kohler.
Je dirais que c'est une question piège. Moi, j'aurais tendance à dire zéro parce que c'est une question piège, peut-être. Je sais pas, je suis pas sûr.
Alors?
Suspense.
Vite, une réponse.
Une fois, on dit.
Vas-y, c'est mort, là.
Femme, c'est perdu.
Ah, ça fait tard, là.
C'était non, deux mais fois. C'est bon. C'était deux si fois. Si on a une minute pour les questions...
Taratas, Yak. Thierry Henry a été capitaine d'Arsenal de 2005 à 2007. Avant cela, qui était le capitaine d'Arsenal?
Facile. C'est facile.
Là, comme ça, je dirais.
Il y avait le temps de voyager en avion, c'est trop difficile.
Vite.
T'es d'accord ou pas, Taratas?
Votre réponse, vite.
Ouais, vas-y, pars sur Sol Campbell.
Et non, c'était Vieira.
Voilà.
Donc tout le monde est à un point. Romeo Raled, dans quel club européen a fini sa carrière George Adji?
Le Roumain, je crois.
Oui, c'est bon, Raled.
C'est bon.
Deux points pour Romeo et Raled. Adrien, Chris, un joueur a été triple ballon d'or avec le Milan AC. De qui s'agit-il?
Oula, trou noir.
Papa, il a été combien de fois?
C'est le même et unique joueur qui a été triple ballon d'or.
Je dirais papa, mais je suis pas du tout sûr.
Moi, j'ai réponse? Un trou noir. Je sais pas. Ça me vient pas.
Donc, c'est papin, votre réponse, c'est papin?
Bah ouais, mais je crois pas.
Et bah c'est faux. C'était Van Basten.
Ah ouais, on aurait pu l'avoir, Van Basten.
Taratasiak. Pensez qu'il passe un triple ballon d'or. Faut m'excuser, mais voilà.
Taratasiak, je veux un entraîneur plusieurs fois champion d'Italie, champion une fois en Bundesliga, champion une fois en Autriche, et champion une fois
trop
en Liga Sacrée.
Trop facile. Trop facile.
C'est quoi clair, la question?
Je veux un entraîneur plusieurs fois champion d'Italie, une fois champion en Bundesliga, une fois champion en Autriche et une fois en Liga Sacrée.
Trop facile.
Une réponse rapidement.
Rapatoni. Ouais.
Oui, c'est ça. Un point pour
bravo.
Vous.
Bien.
Vous êtes à deux points.
Bravo.
Roméo Rallet.
Et moi.
Je veux le recordman de sélection avec la Mande. Vite.
J'ai rien entendu.
Le record de. Le record
j'ai rien entendu,
de
désolé.
Recordmation avec la Mannschaft.
Lothar Matthäus.
Oui, 3 points. Bravo. 1 point pour vous, vous êtes à 3 points. Adrien Chris. Quel joueur italien a été élu meilleur joueur du XXe siècle de Chelsea?
Meilleur joueur du XXe siècle de Chelsea?
Oui, il est italien.
Mamadou Samassa.
Ah oui, oui, non, non, je sais qui c'est.
Oh, facile.
Ah, ces trucs, je vois. Je
oh là là.
Allez-y, vite, allez. Vite.
Jean-Pierre Papin.
C'est
une réponse, Chris. Adrien.
C'est Zola, non?
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, c'est Zola. C'est Zola.
Ah,
oui,
c'est, bon. Oh, c'est trop tard, là. Ils ont mis combien de temps à répondre?
Bon. Taratasiak, quel est le plus
jeune buteur de l'histoire? De toute façon, ils sont mauvais, ils
n'ont jamais. Vas-y, j'ai rien entendu.
Quel est le plus jeune buteur de l'histoire du Barça?
Jean-Pierre Papin.
Vite, une réponse.
Je sais rien, moi.
Le plus jeune, hein.
Vas-y, pars sur le Kritic machin, la Boyan.
Oui,
Boyan,
c'est ça. Ouais. Un point pour
oh,
vous.
Oh oui, oh oui.
Bravo.
Roméo Rallet. Oleg.
Attends. On a la musique. Attends. On a la musique super fort dans les oreilles. On pourrait baisser, s'il vous plaît. C'est un peu chiant.
Voir couper parce que j'ai l'impression que ça ralentit le.
Ouais. C'est bon là?
Voilà.
Bon, petit peu de merci.
Alors, Oleg Blokhin a fini sa carrière en Grèce, mais dans quel club a-t-il passé quasiment l'ensemble de sa carrière?
Honnête Blokhin.
Oui. Genre ukrainien.
Blokhin. Tu vois toi, Khaled?
Vite.
Il a fini sa carrière en Grèce, c'est ça que tu m'as dit?
Ouais, je dirais le Dynamo de Kiev.
Oui, c'est bon, Romain.
Putain.
Si. Un point pour vous.
En même temps, c'est le meilleur club ukrainien, donc bon.
Voilà. Chris et Adrien, quel est le dernier entraîneur français à avoir entraîné l'Olympiakos Le Pirée?
J'ai rien entendu.
C'est strictement rien.
Quel est le dernier entraîneur français à avoir entraîné l'Olympiakos Le Pirée?
Ah, je sais rien.
Bah, le Pierret.
C'est strictement rien.
Ah, je sais rien.
Moi non plus.
C'est, vous avez pas de réponse donc?
Ah, pas du tout.
Jean-Pierre Pape.
Même pas un petit nom? Rien du tout, non?
Bah, c'est Troussier, peut-être, mais je crois pas
non,
du tout.
Non, c'était Roland Courbis.
Ah, je savais pas. Je savais pas du tout.
Roméo Rallet.
Qu'on voit d'ailleurs dans le film 3-0.
Si vous marquez vous répondez bon à la question, vous gagnez le jeu.
Mais on peut continuer pour le
fait. Yak et Taratas sur ce coup-là.
Ah ouais, j'ai oublié, excuse. Yak et Taratas. Je veux un attaquant brésilien, 5 fois meilleur buteur du championnat portugais, mais avec 2 clubs différents.
Oh, c'est facile.
Ah putain, comment il s'appelle?
Oui, c'est facile.
Oh. Putain, j'ai zappé ça.
Je veux la réponse.
Tu l'as ou pas, Taratas?
Non. Un attaquant brésilien.
Ouais, putain, j'ai
5 fois meilleur.
Bon.
Je peux la dire.
Ah putain, je le sais.
Pas de réponse?
Je crois que Wikipédia le sait aussi.
Oui. Mais
ben, c'est pas tous comme toi, Romero.
Oui. Pas de réponse?
Non, ah, vas-y, ça va saouler.
Et ben, c'était Jardel. Mario Jardel.
Jardel.
Putain, c'était à lui qu'il pensait.
C'est d'ailleurs perdu à Marignan avant d'arriver à Marseille.
Roméo Rallet.
Oui.
Si vous gagnez, vous marquez.
Pour définitivement asseoir notre domination.
Si, si vous répondez bon à la question.
Pour un deuxième quiz gagné de suite.
La voilà. Première fois, on sait avec qui tu étais, hein, on se souvient tous.
T'as Roméo qui gagne en plus, la honte.
Alors, voilà la question. Quelle équipe en Europe détient le record du nombre de défaites consécutives?
Ah, moi je sais
pas. Oh, non, attends, elle est pas honnête celle-là. Tout le monde en parle avec le truc de Grenoble.
Avec Grenoble. Alors,
moi je dirais de défaites consécutives.
Oui.
Attends, la question en C1 ou en Coupe d'Europe totale?
C'est Manchester United.
Oui.
Putain.
Vous gagnez le quiz. Non, là je suis pas d'accord. La force réclamation. Obstruction, comme dirait l'autre. Point.
Roméo, t'as dit Manchester.
Avec Grenoble, Roméo, tout le monde parle du record, tout le monde cherche les records, tout le monde en parle.
Et non, mais,
et alors, du tris sur n'importe qui site dans les deux semaines.
Non, mais le coup du triple ballon d'or là, j'en perds pas un, c'était super simple aussi.
Ah, mais je vois pas le rapport, celle-là elle est bien. En plus, elle est décisive.
Il y a qu'il y avait des questions faciles, il y avait des questions difficiles. C'était chaque fois une question facile, une question difficile. Ils sont tombés sur une question. Ils sont tombés sur une question facile. C'est dans l'ordre du jeu. Vous aviez voilà.
Je saurais te câliner. T'inquiète ça.
Voilà. Donc, Romelo et Ralette sont déclarés grands vainqueurs du quiz du départ.
Je te donne un défi. Aurélien, c'est de dire correctement mon prénom, oui. Au moins une fois. Parce que des fois c'est Romero, des fois Romero. Vas-y, tu peux le faire.
Excuse-moi. Donc Romeo et Ralette finissent premier quiz du 1er novembre 2009 devant Tarataz et Yak avec 3 points et Adrien et Chris avec 2 points. Voilà.
Ouais, merci beaucoup de
faire au quiz.
Justice est faite. Merci à tous.
Ouais. Si on veut.
D'ailleurs, j'ai une question. J'ai une offre de 6 millions pour Marek Sushi de la part du HSV. J'accepte ou pas?
S'en fout.
Non, y a rien à foutre.
Votre haine vous paiera.
Bah, je crois qu'on peut. On peut vous dire au revoir, on peut remercier tous les membres qui ont participé à l'émission. Et le prochain rendez-vous sur Génération Soccer, c'est demain, dès Bafter Ligue 1, dès 21h. Je vous souhaite de passer, merci à toute l'équipe qui a fait l'émission, une bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.
Au revoir.
Salut les gars.
Ciao.